spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en...
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission mensuelle de Stop Nucléaire Drôme Ardèche. Aujourd'hui, nous allons recevoir à 12h20 Didier Angers de la coordination antinucléaire Ouest à l'initiative de la grande manifestation qui s'est déroulée ce week-end devant l'EPR de Flamanville dans le Cotentin. Mais bien sûr, et comme d'habitude, quelques billets d'humeur à Georges, qui va nous parler de Fukushima.
Oui, mais bien sûr, comme d'habitude. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je vais vous parler du démantèlement. Alors la question, c'est que fait-on pour démanteler les réacteurs ? C'est tiré d'un article du Mainichi, paru le 7 mars 2016, un texte de Yori Yashuo du 12 juillet 2016. À Fukushima, on travaille au démantèlement de réacteurs nucléaires, c'est-à-dire démolir des bâtiments de la centrale nucléaire, et on s'apprête aussi à retirer le combustible fondu du cœur des trois réacteurs. On a franchi seulement la première étape, et pour les réacteurs, on prévoit que cela nécessitera de 30 à 40 années. Les travailleurs portent une combinaison de plastique pour éviter les pollutions et un petit appareil de mesure de radioactivité. Dans les endroits très radioactifs, ils se couvrent la tête et mettent un masque. Ils travaillent au péril de leur vie en s'exposant aux radiations, mais ils disent « il faut bien que quelqu'un fasse ce travail, donc je le fais ». À cause de leur combinaison de protection, ils risquent également de mourir de chaleur. Monsieur A, qui habite Iwaki, une ville voisine, est parmi eux. Il travaille pour une petite compagnie sous-traitante en quatrième position de TEPCO. Il se lève à 3h30, se rend à 4h au J-Village, dans une voiture envoyée par la compagnie. Il porte 5 sous-vêtements, 2 chaussettes et 2 gants, avec en outre une pochette chauffante, au Cairo, glissée entre 2 vêtements, et pourtant il sent encore le froid. Il a sur lui un dosimètre. Quand la radioactivité excède 0,16 millisieverts, celui-ci l'en avertit par un bourdonnement. Au troisième bourdonnement, le travail cesse pour la journée. Le travail d'été est plus dur, et le plus dur. Les ouvriers portent alors un masque et des combinaisons de protection. Ils mettent à l'intérieur de la glace pour éviter d'avoir trop chaud, mais au bout d'une demi-heure, elle est fondue. Un jour, un homme d'âge moyen était couché, évanoui dans la salle de repos. On l'a transporté par hélicoptère à l'hôpital, mais il est mort un peu plus tard d'un coup de chaleur. L'avocat Hirota Hideo, qui aide les travailleurs pour les problèmes de salaire, explique « TEPCO donne du travail à une compagnie sous-traitante, qui ne le fait pas elle-même, mais qui à son tour le confie à ses sous-traitants. Et ainsi s'étage en pyramide plusieurs couches de compagnies sous-traitantes, et à chaque étage, chacune prélève sa commission. Si l'on ne supprime pas ce système, jamais cette pompe à finances ne disparaîtra. » Monsieur Katsura Takeshi, qui aide les travailleurs des centrales nucléaires, dit « Il y a encore des gens qui travaillent sans contrat écrit. Les compagnies qui les embauchent doivent avoir la responsabilité de leur salaire, de leur sécurité et de leur assurance. » Le 11 septembre, Monsieur Nakajima Takashi, habitant à Soma, ville du département de Fukushima, a fait une conférence. Il a depuis 30 ans une supérette dans Soma, mais du fait de l'accident nucléaire, il souffre énormément. Il est le principal représentant d'un groupe de plaignants qui compte 3865 personnes. Il exige que TEPCO et le gouvernement leur rendent leur vie et leur région. Les études scientifiques menées suite à la catastrophe de Fukushima révèlent petit à petit les conséquences de la radioactivité sur le vivant et en particulier sur la faune. Toute dose de radioactivité, aussi faible soit-elle, a des effets sur le vivant. Les rayons ionisants cassent les molécules d'ADN. Dans un prochain billet, j'évoquerai le fait que personne n'endosse la responsabilité de l'accident nucléaire et le nouveau slogan du Japon « Oubliez et n'ayez pas peur ». Aussi, le discours du maire de Nagasaki le 9 août 2016. Et enfin, à Soko Us, un combat contre le constructeur du nouveau monstre atomique de la préfecture d'Aomori, la centrale nucléaire d'Oma, prévue pour fonctionner au MOX.
Eh bien, merci. Georges, on sera là donc le mois prochain pour écouter ces nouvelles de Fukushima encore.
Voilà, qui sont toutes issues du Fukushima blog.
Ah oui, en renvoyer nos auditeurs sur le Fukushima blog, qui est très intéressant. Aujourd'hui, c'est moi qui ai mon petit moment d'humeur. Je vais vous parler d'un événement qui ne se produira bien sûr jamais à Bure, d'après nos politiques et les nucléaristes. Dans son numéro du dimanche 25 septembre 2016, le Los Angeles Times fait le point sur les coûts associés à un accident dans le centre de stockage géologique des déchets nucléaires de Carlsbad dans l'état du Nouveau-Mexique. C'est aux États-Unis bien sûr, et c'est l'équivalent de notre centre de Bure en construction et contre lequel beaucoup de gens se battent. En 2014, un fût de déchets y a éclaté. Un seul. Et la remise en état du site coûtera, d'après le journal, plus de 2 milliards de dollars, tandis que les opérations d'enfouissement ne pourront pas reprendre avant 2021. Le Waste Isolation Pilot Plant, comme on dit, le WIP, est un centre destiné à l'enfouissement définitif de déchets nucléaires à vie longue, issu du programme d'armement nucléaire états-unien. Plusieurs centaines de milliers de fûts peuvent y être stockés dans des cavernes de sel à 640 mètres de profondeur. C'est le seul centre de stockage de ce type aux États-Unis après que la construction d'un autre centre, celui de Yucca Mountain au Nevada, a été stoppée par l'administration Obama en 2011. Ça ne vous rappelle rien ? À Bure, dans l'est de la France, la population lutte contre un tel projet d'enfouissement similaire. Le WIP, présenté jusqu'en 2014 comme une réussite exemplaire par le ministère états-unien de l'énergie, avait été prévu pour recevoir des déchets nucléaires pendant 35 ans et préserver, entre parenthèses, l'environnement de toute fuite pendant des dizaines de milliers d'années. Son coût, 19 milliards de dollars. En février 2014, une réaction chimique à l'intérieur d'un fût de déchets provoque la rupture de celui-ci et la libération de ces éléments radioactifs, dont du plutonium et de l'américium, qui parviendront à contaminer l'extérieur du site via le système de ventilation. Selon un expert interviewé par le Los Angeles Times, l'ampleur de l'accident a été largement minimisée par les autorités concernées. Tout ce qui n'aurait jamais dû se produire se produisit. Dans une analyse de l'accident, la revue Nuclear Monitor avait rapporté en 2014 que tout ce qui n'aurait jamais dû se produisit justement, et tout ce qui aurait dû fonctionner, eh bien, ne fonctionna pas. Lors de la conception du centre de stockage, les ingénieurs avaient estimé qu'un tel accident ne pourrait se produire qu'une fois tous les 200 000 ans. Le Los Angeles Times précise que le coût final de l'accident de WIP sera plus élevé que celui des 12 années de décontamination du réacteur de la centrale nucléaire de Three Mile Island, dont le cœur avait fondu en 1979. Le journal précise que la décontamination des sites nucléaires militaires états-uniens, dont le site de Hanford où fut produit le plutonium de la première bombe atomique, coûtera des dizaines de milliards de dollars. Au-delà des coûts, toujours faramineux quand il s'agit du nucléaire, l'accident du WIP montre aussi que la fausseté du mot décontamination, puisqu'il s'agit en réalité de contaminer ailleurs, dans un endroit considéré à moindre risque, et ce, pour des milliers d'années. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à l'article Nuclear Accident in New Mexico du Los Angeles Times et dans son numéro du 830 du 20 décembre 2016. Voilà pour rassurer nos camarades de Bure.
Oui, peut-être il faut simplement en tirer que le risque zéro n'existe pas.
Y compris dans l'enfouissement des déchets.
Y compris pour Bure.
Voilà, et ben maintenant pour passer tout ça, on va écouter une petite chanson End of the Road de Eddie Werder. Alors nous sommes aujourd'hui avec Didier Anger par téléphone. Didier, tu nous entends bien? Allô Didier, est-ce qu'on t'entend? On a manifestement un petit problème de téléphone pour l'instant. Mais ça va venir, je pense. Ce sont les inconvénients du direct et du téléphone en même temps. Voilà, on est en train d'essayer de récupérer Didier. Est-ce que tu m'entends, Didier, maintenant? Non, je n'ai toujours pas Didier. Mais ça va venir, puisqu'on semble la communication se faire. Voilà, peut-être un petit bouton à appuyer. Est-ce que Didier, tu m'entends maintenant? Je n'ai toujours pas. Allô? Je n'ai toujours pas la communication avec Didier. Est-ce que c'est bon maintenant, Didier?
Moi, je t'entends.
Toi, tu m'entends? Eh bien, écoute, moi aussi, maintenant, c'est merveilleux. Voilà, on a eu un petit problème technique, là. Ça ne passait pas la cabine du studio.
Eh bien, va falloir faire du grand carénage.
Il va falloir faire du grand carénage, tout à fait, Didier. Bon, moi, je t'entends parfaitement, en tout cas, toi aussi. Alors, oui. Petite présentation de toi, Didier. Tu es un fils de militant syndical, adepte, oui. Toi-même syndicaliste, enseignant, adepte de la pédagogie freinaise, très intéressant. Oui. Installé à Flamanville, carrément au pied de la centrale et du futur EPR, actif depuis les années 72 dans le mouvement antinucléaire, dans une association qui s'appelle le CRILAN, mais on en parlera tout à l'heure, membre fondateur des Verts, tête de liste d'Europe Écologie pour les élections européennes de 84, élu ensuite au Parlement européen à la suite des élections de 89, tu as été vice-président de la commission énergie du Parlement européen de 89 à 91.
Bien renseigné.
Voilà, oui, également élu, j'ai lu ton livre, également conseiller régional de Basse-Normandie à partir de mars 86, pendant deux mandats, et tu as coutume de dire on n'est pas antinucléaire, on le devient, et ta vie le confirme, et on va en discuter. Aujourd'hui, tu es sans mandat électif, sans appartenance politique, bien que, comme tu le dis toi-même, que la lutte contre l'état nucléaire soit évidemment politique, comme tu le dis dans ton livre justement. Tu es rédacteur de trois livres, « Silence, on contamine » en 87, « Nucléaire, la démocratie bafouée » en 2002 et un livre qui vient de sortir.
Dont et il y a « Chronique d'une lutte » en 78, donc c'est le quatrième.
Toi, du coup, là, j'avais un manque d'informations. Donc le quatrième qui s'appelle « L'EPR, un désastre en cours » qui sort maintenant au modique prix de 15 euros. Alors... Durant ces trois décennies de militantisme local, à Flamanville, à côté de l'usine de déchets de La Hague, bien connue, a poussé une centrale nucléaire, et maintenant l'EPR, qui tente d'exister et d'apparaître un peu au forceps, ce qui fait du Cotentin, avec la Drôme, les deux régions les plus nucléarisées d'Europe. Alors, on sort d'un rassemblement ce week-end, le deuxième après celui de 2006. La situation de l'EPR aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement? Où est-ce qu'on en est exactement avec cet EPR?
Pour être bref, il y a deux catastrophes en cours. La première, elle est financière, puisqu'il était prévu à moins de 3 milliards en 2002. Comme en enquête publique, il était prévu à un peu plus de 3 milliards. Il y a deux ans et demi, à 10 milliards et demi. Et d'après nos informations non officielles, il est déjà à plus de 12 milliards, ce qui veut dire que le kilowattheure va formidablement augmenter, soit sous sa forme classique, quand on est client d'EDF et non pas d'Enerco ou d'une autre entreprise, eh bien, soit par l'intermédiaire de l'État, car l'État est propriétaire encore à 83%, 84% d'EDF. Donc on retrouvera ça sur la note des impôts.
Donc une électricité plus chère, mais est-ce que c'est le seul inconvénient de l'EPR?
Eh bien, le gros inconvénient, c'est quand même toutes les anomalies qui ont été repérées sur la construction au fur et à mesure. Bon, je n'insiste que sur la dernière qui est la plus connue, c'est le fait que la cuve de ce réacteur EPR, tout au moins les parties bombées, c'est-à-dire le fond et le couvercle, ont un taux de carbone qui est très nettement supérieur à la réglementation officielle, non seulement celle de 2005-2006, mais également celle de 1974, ce qui a fait dire à un ingénieur d'EDF que nous connaissons bien, mais qui n'est pas d'ici, c'est la centrale la moins sûre de France. La formule n'est pas de nous, donc, hein, oui. Mais d'un spécialiste, d'un expert, comme on dit.
Voilà, comme on dit.
Et donc, ça veut dire que, en cas de pression trop importante sur cette cuve, eh bien, on risque les fissures, on risque des fuites, on risque l'accident même majeur. Or, ce n'est pas seulement EDF qui demande à être exonéré de changer ou bien d'arrêter cette construction, ou bien de changer la cuve, mais c'est l'État. L'État s'est permis, le gouvernement, par décret, s'est permis le 31 décembre, c'est souvent les dates des mauvais coups,
oui, ça, hein, effectivement.
Les fêtes, et publié le 3 janvier de cette année, donc un décret qui déclare que on peut déroger, c'est le terme exact, hein, déroger aux lois et réglementations pour les installations nucléaires de base sous pression. Le père en est une, évidemment, et comme par hasard, le couvercle de la cuve est arrivé quelques semaines plus tard. En fait, l'objectif de l'EDF est d'essayer de vendre encore la centrale de Flamanville. PR est inutile, dangereux, c'est plus qu'avéré maintenant, c'est même que ce qu'on imaginait au départ. Mais il s'agit encore de vendre à Hinkley Point, Cocorico, la France vend, mais en fait c'est EDF qui vend à British Energy, sa filiale. Hein. Et donc s'il y a des problèmes à Hinkley Point en Angleterre, eh bien ce sera encore le contribuable français qui paiera. Donc il y a une vitrine commerciale qui est quand même extrêmement coûteuse pour la France, pour le consommateur, l'usager, et il faut arrêter les frais. Il y en a déjà assez comme ça.
Oui, parce qu'il faut le dire, cette centrale, au départ, elle était prévue autour de 3 millions d'euros. On en est 3 milliards d'euros, pardon, oui, effectivement. Et on en est maintenant à plus de 10 milliards, quasiment.
On en est à au moins 12 milliards, sinon plus, d'après nos informations non officielles, mais internes.
Et effectivement, comme tu l'as signalé, l'objectif, là, c'est à partir de cette vitrine un petit peu EPR ici, on essaye de finir celle de Finlande et de la vendre aux Anglais, mais aussi aux Chinois et Indiens, si j'ai bien compris.
Oui, et donc à l'heure actuelle, la vitrine commerciale, quand même, tourne en son contraire, c'est-à-dire que ce qui était prévu aux États-Unis est abandonné. La Finlande dit, ben, y en a un, mais c'est pas sûr qu'on le finisse complètement. Par ailleurs, y en aura pas un deuxième, qui était prévu au départ. L'Afrique du Sud hésite, et puis y a encore peut-être certains Émirats arabes, les pays du Golfe, vous savez, ils ont du soleil, ils ont du pétrole, mais les chiites ayant la bombe presque, ils l'ont vraiment caché, et Israël l'ayant depuis de nombreuses années, d'ailleurs avec l'aide de la France,
aussi,
et,
oui.
Eh bien les sunnites veulent aussi leur centrale nucléaire, car c'est à partir du nucléaire dit civil que l'on peut récupérer du plutonium et faire sa bombe. Donc on est là dans un commerce quand même qui est plus que douteux.
Donc un EPR facteur de guerre nucléaire, en tout cas de conflits dangereux, et une
dans
vente...
Dans les points chauds de la planète, évidemment.
Voilà, complètement, hein, oui. D'accord. Bon, donc on voit à peu près là, il n'est toujours pas en service cet EPR, donc c'est peut-être le moment de l'arrêter. C'était un peu l'objectif de cette manifestation. Le bilan qu'on peut tirer de cette manifestation, j'y étais présent, mais je préfère que ce soit toi qui dise le bilan.
Oui. Bon, on a dénombré au moins 5000 personnes. Bon, ce qui, en l'état de la situation, c'est-à-dire avec l'état d'urgence d'une part, et les conditions auxquelles on est contraint pour organiser des manifestations, et puis d'autre part, le fait que le temps ne nous était pas quand même très favorable. On a commencé notre manifestation avec une bonne chute de grêle.
C'est le Cotentin.
Donc,
hein.
ça n'a pas permis d'être sûrement plus nombreux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le mouvement n'est pas au mieux. Le nucléaire est dans la situation la plus déplorable qui soit, aujourd'hui en France, au bord de la faillite, mais le mouvement n'est pas en mesure d'arrêter le nucléaire immédiatement ou dans les quelques années qui viennent, ou même avec seulement un engagement politique de faire ce changement, eh bien, ce changement de recours à l'énergie. Et donc, il y a nécessité non seulement à remettre en cause les décisions politiques gouvernementales et industrielles de l'État, mais il y a aussi un peu à se regarder en face et à être capable de faire son autocritique pour pouvoir ressurgir comme le phénix, pas comme le super phénix, mais comme le phénix de ses cendres. On n'est pas encore en cendres, on survit, on est là, et il s'agit maintenant de relancer le mouvement antinucléaire sur des bases peut-être un peu nouvelles.
Eh bien, on va justement développer un petit peu cet aspect-là. On va écouter pour faire une petite pause entre nos interventions, mais tu restes en ligne. On s'est trouvé la Java des bombes atomiques qu'on utilise au début de notre émission, mais là par Olivia Ruiz. Donc un petit coup de bombe atomique.
Le bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, palpant avec amour ses atomes d'hydrogène. Pour se distraire, sa mère lui mit des pétards sous son lit, mais il sourit à peine. Et puis un jour qu'il essayait de faire sauter le poulailler, il prit tout en pleine gueule. Alors couvert de sparadrap, en buvant son tilleul, tonton nous déclara: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant lui fit immédiatement élever un monument.
Et ben voilà notre superbe chanson, on se lasse pas de l'entendre, j'espère que d'autres chanteurs la reprendront également. Didier Angers, tu es toujours avec nous ?
Oui, je suis toujours là.
Voilà. Alors bon, justement, on parlait dans la première partie un petit peu des difficultés du mouvement antinucléaire. Cette manifestation qui a quand même été, bon, avec 5000 personnes, probablement le plus gros rassemblement depuis la chaîne humaine au lendemain de Fukushima, a été organisée par le comité antinucléaire Ouest, qui est en fait un conglomérat de diverses associations. Parle-nous un petit peu de ce CAN Ouest.
Alors, à l'initiative de Stop en ligne, où il avait été imaginé un deuxième réacteur EPR, je ne sais pas trop où on en est sur la question, et du Crillan, donc qui a son siège ici à 5 kilomètres de Flamanville, donc le Crillan, comité de réflexion, d'information et de lutte antinucléaire de Basse-Normandie, qui a plus de 40 ans d'existence et qui continue la lutte malgré les difficultés.
Et qui vient de sortir une très belle brochure, d'ailleurs.
Oui, et donc s'est créé le canot, c'est-à-dire le comité antinucléaire ouest. On voulait faire en sorte que les Bretons, les Hauts et les Bas-Normands, mais également les gens des Pays de Loire, s'associent pour avoir une efficacité un petit peu plus grande, mais sur des bases quand même assez décentralisatrices et plutôt fédérales que centralistes. Hein. Donc, ça, depuis un peu plus d'un an, on a travaillé et on a préparé ce rassemblement comme un moment qui se voulait non seulement opposant à l'EPR et au grand carénage ou au grand rafistolage des vieux réacteurs, mais aussi comme peut-être un moment de reconstruire un mouvement qui a quelques difficultés aujourd'hui. Donc, c'est une chose que l'on va poursuivre, parce que les 5000 personnes sont pas suffisantes. Je plaide depuis longtemps sur l'idée que il ne suffit pas d'avoir raison, il ne suffit pas de communiquer sur Internet, etc. Mais il y a une vieille doctrine qui date de plus d'un siècle, qui disait « eux, ils ont le fric, nous, on a le nom ». Mais il faut que nous soyons vraiment le nombre, et plus nombreux que 5000, pour arrêter ce nucléaire, qui est un nucléaire spécifiquement français, c'est-à-dire d'État, qui mélange le civil et le militaire, et qui mélange la fonction industrielle et la fonction étatique. C'est-à-dire que ce n'est même pas un État dans l'État, c'est l'État. On a effectivement, enfin, face à nous, un gros morceau, un très gros morceau à vaincre. Mais la lutte est toujours utile. Jusqu'à maintenant, il y avait 4 réacteurs qui étaient prévus à Flamanville. C'est le troisième construit, mais on avait réussi à moitié gagner, à moitié perdre, certes, mais à moitié gagner. Quant à l'usine de La Hague, ses contrats avec l'étranger se trouvent très amoindris, presque inexistants. Et on avait devant nous un mur absolument formidable avec cette fabrique de plutonium. Mais un mur, on peut sauter par-dessus ou on peut passer à côté. Et donc, c'est ainsi qu'on est allé à Gorleben, on est allé à Wackersdorf, en Allemagne, on est allé en Suisse, on est allé en Suède, on est allé jusqu'au Japon, on est allé même jusqu'aux États-Unis, etc. C'est-à-dire que on est allé essayer de convaincre les personnes de fournir les informations pour organiser eux-mêmes leur lutte. Évidemment, ce n'était pas à nous, et on ne pouvait pas d'ailleurs d'organiser cela. En tout cas, aujourd'hui, il y a une ligne qui fonctionne sur les deux. Là aussi, on a à moitié gagné, à moitié perdu. Ceci dire qu'il ne faut pas perdre dans l'idée ce qui est important, c'est notre propre action.
Oui, ça je comprends bien. Donc, en gros, c'est action sur le terrain, et puis peut-être donner. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a ressenti. On est quelques Dromois à être montés à la manifestation. C'était que pour la première fois, c'était des groupes de terrain qui étaient d'abord en tête de manifestation, et on sent bien qu'il y a une activité, mais qui aujourd'hui n'arrive pas à se coordonner, quoi. Est-ce que tu es toujours avec nous, Didier ? Ah, on a une coupure.
Ah, ça y est. 50. Donc, il y a aussi les petites guerres entre associations.
C'est la ligne qui est pas bonne.
Ah, on a un problème de ligne. On a un problème de ligne, manifestement. Didier, je ne sais pas si tu nous entends toi, mais moi, je t'entends plus du tout. Est-ce que c'est... Bon là, bon bah... Je pense qu'on va remercier... On va remercier Didier parce qu'il semble que là on ait une coupure de téléphone. Bon, bah écoute Didier, je te rappellerai tout à l'heure, et puis on va terminer quand même en disant que je pense que c'est un petit peu d'ailleurs le fond du livre de Didier, c'est que à partir de cette manifestation là, il y a une tentative de remettre un petit peu les groupes de terrain qui sont très nombreux, et notamment dans la Drôme, en Ardèche avec le collectif pour la chaîne humaine, dans la Drôme avec Stop Nucléaire, mais également dans à peu près toute notre région et toute la France, des collectifs qui travaillent un peu seuls. Et l'objectif de cette manifestation là, c'était effectivement de donner un peu un élan pour que de nouveau un mouvement anti-nucléaire national et voire même européen se mette en place, quoi. Donc un beau succès. Et puis alors il faut le dire aussi, Didier, on a parlé un tout petit peu, mais même si on peut considérer qu'il y avait moins de monde à cette manifestation là qu'à celle de 2006, c'était quand même un très grand rassemblement. Il fallait déplacer les gens dans le Cotentin. Et on peut dire que les gens qui en sont sortis de ce rassemblement étaient tout à fait ravis. Voilà, écoute Didier, on s'excuse si tu nous entends encore, nous on t'entend plus, mais je te rappellerai tout à l'heure. On va faire un petit point, on va revenir d'ailleurs sur le sujet, Jeanne, avec ton intox désintox.
Oui, oui. Donc moi j'avais fait sur l'EPR les falsifications à Creusot-Forge d'Areva, vous avez dû en entendre parler. Et donc, nous, on a bien insisté, toute cette émission, de la faire un peu sur l'EPR. Donc, voilà. Je vais rappeler des choses qu'a dit Didier Angers, mais bon, ça fait rien. EDF nous envoie de la publicité, il répète aussi, et ça pose des problèmes à personne.
Oui, il ne faut pas hésiter à enfoncer le clou, comme on dit.
Voilà. Alors, le rappel des faits. Fin 2014, l'Autorité de Sûreté Nucléaire, la SN, a relevé des anomalies sur la cuve de l'EPR de Flamanville. Soupçonnant que ces défauts n'étaient pas des cas isolés, l'ASN avait demandé en 2015 à Areva de lancer un audit sur son usine du Creusot. Résultat, Areva a avoué à l'ASN avoir détecté des irrégularités dans les documents de fabrication. Les problèmes concernent notamment le taux de concentration de carbone et d'autres éléments dans la composition des pièces métalliques. Ce taux est incorrectement renseigné, voire pas du tout. Alors là, Dominique me pose une question.
Je vais te poser la question. Si c'est une histoire de documents mal remplis, c'est pas si grave, en fait.
Eh bien voilà, c'est ce que nous a dit notre cher ministre Ségolène Royal début mai 2015. Les pièces sont conformes. Ce sont les documents qui ont été mal faits. Oui, mais enfin, l'explication vraisemblable des documents incorrectement renseignés ou pas renseignés du tout, c'est que les valeurs non conformes aux exigences réglementaires de sûreté ont ainsi pu être masquées. Autrement, on marque, hein. L'EPR de Flamanville est le premier concerné par ces problèmes. C'est sur le couvercle et le fond de la cuve que les premières anomalies ont été constatées. L'excès de carbone présent dans leur partie centrale remet en cause leur capacité mécanique à résister à la rupture brutale dans certaines conditions. Si lors d'un incident, il faut injecter d'importantes quantités d'eau froide, vous avez dû entendre parler de ça, dans la cuve, et bien la cuve, elle ne supportera peut-être pas le choc thermique.
Alors,
c'est embêtant, ça.
Ces vérifications, elles en sont où?
L'instruction technique, elle est en cours, contrairement aux déclarations rassurantes entendues ces derniers mois. Les tests se sont révélés plus complexes que prévu. Areva procède à de nouveaux essais mécaniques et chimiques pour justifier le caractère suffisant des propriétés du matériau utilisé. L'ASN décidera au vu des résultats du nouveau programme d'essais de l'aptitude au service du couvercle et de la cuve de l'EPR de Flamanville. Et la décision ne pourra être prise qu'au milieu de l'année 2017. C'est pas encore que c'est prêt, hein.
Alors, ce qui va reculer encore plus le PR, voilà. Ça on l'a vu avec Didier tout à l'heure. Alors, comment une telle défaillance a pu survenir sur la surveillance de pièces aussi essentielles et en plus dans un réacteur qui n'est pas encore en fonctionnement?
Voilà, alors dès août 2006, l'ASN exigeait d'Areva qu'elle lui fournisse les preuves de la qualité de la partie centrale du couvercle. Elle avait des doutes déjà. Areva a tout fait pour retarder l'échéance de démonstration de qualité afin de pouvoir installer la cuve défectueuse avant que les défauts ne soient mis en évidence.
Bien sûr.
Mettant ainsi l'ASN et les pouvoirs publics devant le fait accompli. Bien au-delà de ces comportements, un peu de voyous quand même, hein, ce qui pose problème, c'est la rupture de confiance dans les contrôles de l'exploitant. On ne peut plus faire confiance. Moi, j'aurais jamais fait confiance, mais enfin bon. on ne peut plus faire confiance à ces contrôles. Si l'ASN rejette le dossier d'homologation, il y aura des conséquences pour les EPR de Taishan, en Chine. L'EPR de Finlande n'est pas concerné, puisque la cuve a été forgée au Japon. Mais il sera nécessaire de vérifier d'autres pièces importantes pour la sécurité qui ont été construites au Creusot, comme les générateurs.
Absolument.
Et les pressuriseurs, qui ne sont pas des petites pièces.
Et qui touchent aussi d'autres centrales que l'EPR,
voilà.
Aujourd'hui, quoi,
voilà.
Vu les contrôles qui se font maintenant.
Donc, les Français excellents dans le nucléaire, quand même, on a du mal.
Alors, en tout cas, on peut renvoyer au livre de Didier, puisqu'on a parlé de son livre sur la manifestation, mais une grande partie du livre L'EPR, un désastre en cours, qui est en vente maintenant, le livre de Didier Angers, rentre très dans le détail justement sur tous ces défauts du fameux EPR. Céline, un petit peu d'agenda,
voilà, bonjour à tous. Donc tout d'abord, il y a des événements qui sont très imminents. Donc aujourd'hui et demain, l'ANCLI et l'IRSN organisent un séminaire à l'INED, donc à Rovaltin, à côté de la gare TGV de Valence, dont le thème est le suivant, la prolongation des centrales au-delà de 40 ans. Donc voilà, alors c'est un événement à laquelle il fallait s'organiser, s'inscrire. Donc je ne sais pas si on peut encore le faire, mais sachez que les portes sont ouvertes à ce séminaire, donc auquel Stop Nucléaire dans l'Ardèche sera représenté, puisque
pour y apporter la contradiction, voilà, bien sûr, et même exactement. Râler sérieusement contre ce qui est un peu une provocation quand même dans notre région. Il faut bien le dire. Hein.
Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui, et donc aujourd'hui cet après-midi, ça commence à 13h30, et demain toute la journée. Voilà, à l'INED, à Valence TGV. Pour ce week-end, donc, se tient le jour de la nuit, donc, qui est une manifestation qui revient régulièrement chaque année, donc, dont l'objectif est de se battre contre les éclairages nocturnes. Donc, traditionnellement, Stop Nucléaire dans l'Ardèche essaye de participer à ce jour de la nuit en profitant pour rappeler les gaspillages énergétiques, et notamment dans les villes. Donc,
et dans le centre de Valence en particulier.
Centre de Valence. Donc, cette fois-ci, on participera pas ce week-end à cette manifestation, mais plus tard dans l'hiver, on reprogrammera une activité. Ah, on me fait signe que si. Bon, bah alors j'ai rien dit. Donc,
voilà, ce week-end.
Ce 8 octobre, donc Stop Nucléaire participera à cet événement. Où on déambulera dans les rues, comme d'habitude, pour éteindre les enseignes et informer un petit peu les commerçants, notamment, et grands magasins, qu'il y a des lois en la matière et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà.
Rappelons que c'est au maire et au préfet, en principe, de faire appliquer la loi et qu'ils ne le font pas, ni l'un ni l'autre.
Donc à eux aussi, il faudrait qu'on leur rappelle un petit peu la loi. Autre événement, alors là, ça concerne la lutte anti-nucléaire. Donc le week-end prochain, il y a un rassemblement justement de tous les groupes nationaux. Donc c'est à Paris, hein, c'est ça, Dominique ?
Non, là, ce sera à Bordeaux.
Ça sera à Bordeaux. Donc il y a un rassemblement des groupes anti-nucléaires qui souhaitent reconstruire la lutte. Voilà.
Comme on vient de parler avec Didier,
redynamiser. Voilà, exactement. Ensuite, se tiendra le 13 octobre à Romans une réunion publique, donc c'est relative à la FBFC.
Oui.
Ce sera de 18h à 20h, salle Charles Michel à Romans, donc c'est une salle qui se trouve à la maison des syndicats, en fait, sous la mairie Romans. Mmh. Voilà. Donc bah, là encore, ça sera intéressant, en tout cas pour nous, anti-nucléaire, de venir apporter la contradiction. Donc voilà, et si vous voulez vous joindre à nous pour débattre, vous êtes tous les bienvenus. Ensuite, les actions classiques, hein, tous les samedis matins, retrouvez-nous place Porte-Neuve à Valence, dès 11h jusqu'à 12h30 en général. Donc on a les copains qui sont là pour discuter avec vous, vous faire voir les jolies cartes de la région et tous nos jolis sites nucléaires. Et puis voilà, discuter, tracter, etc. Et puis notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le 28 novembre. Alors le lieu, à la Frapna, avenue de Verdun à Valence. Voilà, c'est tout pour le mois d'octobre.
Eh bien, merci Céline, on arrive à la fin de notre émission. Un petit au revoir à Didier et à Paulette Angers, parce que c'est Didier qui parlait, mais sa compagne a le même passé militant que lui et les mêmes responsabilités, donc on pense bien fort à eux dans le Cotentin, il fait un peu plus chaud chez nous. Vous pouvez nous contacter sur notre répondeur au 08 05 69 67 58, c'est un appel gratuit. Aujourd'hui, il y avait Georges, Jeanne, Céline, Jean-Pierre à la technique et Dominique. Et puis, notre prochaine émission sera le 7 novembre 2016. Voilà, on vous appelle.
Juste pour rappeler qu'on est en rediffusion sur les radios locales.
On est en diffusion sur plusieurs radios locales.
Sur Déclic Radio, voilà. Et sur Radio Diwa, vous pouvez nous réécouter, ou nous écouter sur ces radios.
Sur ces deux radios que l'on remercie de nous accueillir. Et nous allons finir avec Sidney Béchette, avec Petite Fleur, ça nous renvoie à un long passé.